revue de presse de l'April, promouvoir et défendre le logiciel libre.
Semaine 16, année 2016. Salut Manu.
Salut Luc.
Eh bien, un sommaire, un joli sommaire bien fourni avec des articles de fond, je trouve.
Oui, il y a des choses pas mal. Premier article sur la motivation, ensuite les imprimantes 3D, l'article de fond justement sur le logiciel libre en général, le marché numérique unique au niveau européen et les standards, la peau de l'open source qui a l'air d'être un peu chassée, on va dire, Android, Bruxelles, Google, un article à propos de Richard Stallman, du personnage, et pour finir, quelque chose sur l'innovation, les inventions, les brevets notamment, des choses assez intéressantes.
Liberté Algérie, l'incroyable équation de la motivation, un article de Sadek Amrouche.
Donc un article qui doit te plaire.
Effectivement, je trouve assez intéressant. Donc l'auteur, manifestement, vient d'un équivalent, je pense, de grande école en Algérie. Et il nous parle de motivation. Donc il va chercher des théories en psychologie expérimentale. Notamment un test, une sorte de test d'intelligence avec des punaises, une bougie et des allumettes. Donc on va pas décrire au-delà de ça. Allez voir l'article, c'est assez intéressant. Moi je connaissais pas. Ça fait partie de...
Moi je connaissais.
Voilà. Et il évoque une suite à cette expérience où en gros c'est des tests d'intelligence. Et on a pris deux groupes de gens. Alain, on a dit, on va, en gros, à partir de vos résultats, s'en servir pour évaluer, en tout cas, étalonner les résultats des autres tests. Et un autre groupe, on leur a dit, on va vous donner de l'argent en fonction de vos résultats. Et le groupe qui obtient les meilleurs résultats est celui qui doit servir de référence générale et non pas celui qui touche de l'argent.
Donc l'article, bien, il en conclut pas mal de choses intéressantes et il se rapproche bien, des modèles du logiciel libre, de Wikipédia notamment, où on fait ce que l'on a à faire, pas pour l'appât du gain, pas parce qu'il y a un intérêt externe, mais vraiment parce que ça nous intéresse en soi, et c'est une des données fondamentales, et la motivation vraiment se retrouve de manière éclaircie, et la motivation du logiciel libre, la motivation de tous ses contributeurs, donc vraiment, moi j'adore creuser là-dessus.
Voilà, l'auteur a une formule que j'aime bien, où il dit en gros, cette question de la motivation intrinsèque permettrait de motiver les gens avec autre chose qu'une plus grosse carotte ou un bâton plus pointu. Il dit, il existe un autre moyen, et c'est assez motivant, assez intéressant.
Donc vraiment, allez jeter un œil, l'incroyable équation de la motivation sur Liberté Algérie, c'est pas mal, ça fait plaisir.
Uni divers, imprimante 3D, panorama des débats et des ruptures, un article de Thibaut Boixière.
Alors les imprimantes 3D, alors on en a déjà parlé, on va pas vous refaire tout le détail, l'article réexplique un petit peu, ça n'empêche, mais surtout c'est qu'il prend un peu de recul sur les imprimantes 3D, et il en parle avec des mots éloquents et des mots forts, c'est la prochaine révolution industrielle.
Oui, alors moi je suis un peu plus mesuré sur l'article parce que, encore une fois, on parle de l'impression 3D alors qu'il y a des tonnes de technologies numériques pour travailler la matière, qui permettent de faire plein de choses. L'impression 3D est l'une d'entre elles qui est effectivement très impressionnante, très spectaculaire, parce qu'on n'a jamais vu quoi que ce soit qui ressemble à ça, mais c'est très utile pour certaines choses, mais ça ne fait pas tout, loin de là. Alors effectivement, il y a en laboratoire ou dans certaines industries de pointe l'utilisation de ces méthodes pour faire des choses faramineuses.
Bluffantes, hein.
Voilà. Et on se doute que d'ici 10 ans, peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, on va arriver vraiment à des trucs géniaux. Aujourd'hui, effectivement, ça reste encore des petits machins en plastique, c'est assez long, c'est relativement peu précis, ça dépend des modèles.
Il y a des évolutions, ouais. On fait des maisons maintenant avec ce genre de mécanisme.
Là, on reste sur des trucs expérimentaux, et on n'est pas dans ce truc démocratisé qu'il peut y avoir.
Et en fait, il y a une projection qui se fait, et l'article, il reflète cela. On se projette dans l'avenir, on imagine qu'est-ce qui se passera quand tout le monde pourra avoir l'imprimante 3D tridimensionnelle chez soi, ce sera de la science-fiction, on pourrait faire venir à partir de plans des objets qui viendraient d'ailleurs. Bien sûr, c'est vraiment de...
Je pense que ça va changer énormément de choses, mais on se focalise à mon sens trop sur l'objet imprimante 3D, et pas assez sur les conséquences que ça peut avoir par rapport aux réflexes qu'on a aujourd'hui, notamment par rapport à l'usage d'un outil ou d'un objet standardisé, et à mon avis, c'est ça où ça va se jouer. Et ce qui est intéressant par rapport à cet article, c'est qu'effectivement on est au balbutiement. Aujourd'hui, pour 300€, on a une imprimante 3D tout à fait correcte.
300€ et de l'huile de coude, hein, parce que
il faut travailler, il faut la calibrer, il faut la monter, etc. Soyons clairs, hein, ça demande du boulot.
Mais c'est ça, ça demande de la motivation.
Voilà, c'est abordable. Et c'est en expérimentant aujourd'hui qu'on trouvera les usages et les nouveaux métiers et qu'on pourra effectivement révolutionner le monde demain. Mais du coup, moi, je trouve que cette concentration sur le truc, regardez, ça imprime en 3D.
C'est que ça impressionne tout le monde.
Oui,
donc,
mais on parle pas encore du fond du truc, tu vois.
Mais effectivement, en attendant, bien, allez voir dans Hackerspace près de chez vous, un Fab Lab. C'est là qu'on trouve ces objets pour l'instant. Mais c'est des objets qui sont en libre service en général. Ou alors il faut contribuer un petit peu, tu connais cela, hein, donc allez-y, c'est près de chez vous.
Framablog, Sympathy for the Free Software. Une tribune de Véronique Bonnet, qui est administratrice de l'April.
Donc une tribune intéressante, elle fait pas mal de parallèles avec beaucoup de choses. Elle reprend des images du Petit Prince, ça fait toujours plaisir.
Mais en précisant que ça n'est toujours pas dans le domaine public.
Oui, ah ben voilà, ça c'était la bonne chose. Donc elle reprend l'idée de l'allumeur de réverbère qui doit allumer les idées et qui doit allumer ce vers quoi on va.
Mmh. Alors elle réagit à quelque chose dont on parle ailleurs dans la revue de presse, qui est que sur la loi numérique, qui était donc la loi pour une république numérique, suite à son passage au Sénat, c'est devenu la loi pour la société numérique. Et elle trouve qu'il y a comme une petite baisse d'ambition, parce que la république, c'est liberté, égalité, fraternité. La société, c'est la société, quoi.
Oui.
Ça donc, peut être tout et n'importe quoi.
Déception, hein, clairement. Donc, elle explique un petit peu tout ça en reprenant du recul. Elle compare, alors, ça m'amuse beaucoup, le Petit Prince et puis le Prince de Machiavel. Bah oui, hein, y a de jolis pendants à faire sur tout cela.
Le Petit Prince de Machiavel, c'est pas...
Et je sais pas, il va avoir mal ou il va faire mal, c'est le choix. Quelque chose d'intéressant, vraiment, allez jeter un œil. Véronique Bonnet a plein de bonnes choses à présenter.
Ouais, alors on rappelle, hein, elle est philosophe et elle écrit très bien. Et voilà, cette tribune est vraiment très très sympa. Développé.com, l'Europe, l'open source va-t-il être exclu des standards pour le marché numérique unique ? Un article de Michael Guillou.
Donc, marché numérique unique, c'est le fait qu'ils essayent d'enlever les frontières, hein, au niveau européen, et c'est logique. Les DRM ont été un petit peu bloquants, donc c'était intéressant d'ailleurs, pour le coup. Il y a eu pas mal de choses là-dessus, mais là, pour le coup, dérapage. Moi, je suis dégoûté. Il semblerait qu'ils sont en train d'envisager. Je sais pas jusqu'à quel point ils sont
rendus là-dedans. Hein. Donc la commission, oui. On le rappelle, c'est en général eux qui font les mauvais coups. On s'en sort mieux au niveau du Parlement européen. Et donc là, en gros, ils poussent ce qu'on appelle les licences FRAND, F-R-A-N-D, qui veut dire « Free and Reasonable ».
Oui, non-discriminatory, en gros, on doit pouvoir acheter une idée, se payer une idée, l'utilisation d'une idée, pour pas trop cher.
Voilà, c'est en gros, c'est pas libre, c'est propriétaire, mais en gros, vous pouvez raisonnablement travailler avec, c'est pas un machin, on va vous escroquer complètement et vous avoir, mais du coup, c'est pas libre. Et du coup, ça appartient en général à des grosses boîtes, et puis on reste dans un monde contrôlé.
Un monde entre soi,
voilà.
Clairement, et ça, ces trucs-là, on n'aime pas quand on voit pointer ce genre d'idée, ça veut dire clairement... Bien, nous, les gens installés, les gens de bon goût, on va se partager entre nous l'idée, on va s'assurer qu'on fait des échanges qui vont bien, mais par contre, d'autres qui vont vouloir un petit peu innover par-dessus, non, va falloir qu'ils participent au contraire s'ils veulent vraiment avancer. C'est bloquant, et clairement, c'est pas du libre. Donc là, c'est un petit peu dégoûtant. Alors qu'il y a le RGI, il y a une nouvelle version du RGI qui vient de sortir, donc dans les articles secondaires, et je pense qu'on en reparlera parce que elle a pris le.
Voilà, et puis il y a toujours cette idée derrière de dire non, il faut du propriétaire, il faut du titre de propriétaire. Intellectuel sur les choses pour innover, vous comprenez, sinon c'est pas possible. Et on en a un autre article là-dessus, justement. Le point, qui veut la peau de l'open data ? Un article de Mathieu Lehaut, qui est en fait une interview de Tanguy Morlier. Tanguy Morlier, qu'on connaît bien,
oui.
Il est président de Regards Citoyens, qui donc travaille sur l'open data, qui a également édité le site nosdéputés.fr, qui en gros récupère les données publiques sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale, et qui en gros fait des stats, compile toutes ces informations-là. Si vous croisez votre député au marché,
vous pouvez aller voir
sur le site et voir qu'est-ce qu'il fait, combien de fois il intervient, où il en est par rapport à la moyenne des
c'est
autres
quoi,
députés,
sa présence,
etc. Voilà, tout à fait.
Je ne pense pas qu'il soit toujours aimé. Hein. Donc, il avait participé avec
Alors,
le député Godillot.
Oui, c'était la première version du site. Ils avaient changé le nom sur quelque chose d'un peu moins provocateur. Alors, Tanguy a été président de l'April pendant 2 ans, au conseil d'administration pendant plusieurs années. Et donc là, vraiment, il travaille sur l'open data. Et lui aussi, c'est quand même finalement pas mal de mauvaises nouvelles cette semaine. Plutôt contrarié par
ce
qui est devenu l'open data.
Il est déçu, hein, parce que l'open data, c'était un grand mouvement. C'était beaucoup d'annonces. Il y a plein de choses qui sont mises en place au niveau français. Il y a un portail, il y a des administrations qui travaillent là-dessus, vraiment quelque chose de costaud. Hein. Open data, ça veut dire que nous, les citoyens, on peut accéder aux données de notre État. Hein. C'est pas rien.
On se souvient que dans la revue de presse, on a eu plein de déclarations, de grandes déclarations de l'État en disant « Youpi
». On était contents, ça faisait plaisir. Mais là, maintenant, ils remarquent, oui, il y a plein de déclarations, mais ça ne mène pas forcément à grand-chose. On ouvre une donnée à un moment donné, mais cette donnée, elle n'est pas utilisable telle qu'elle.
Et puis, il y a eu des reculs dans toujours ce projet de loi
carrément.
Pour la société numérique. Cette loi-là, ce projet de loi, a fait un fil directeur hein, pas mal sur la revue de presse. Et en disant, on est reculé là-dessus.
Il y a des entreprises qui ont fait du lobbying pour pas que toutes les données soient complètement ouvertes. Ou alors, ils sont ouvertes, mais il faut payer quand même.
Voilà, donc ils citent notamment des entreprises non-business et de faire payer des accès à ces données publiques, mais qui nécessitent du retraitement, d'aller les chercher, etc. Ils parlent de société.com, par exemple, ou des trucs sur le droit, ou des choses comme ça. Et ils parlent également des transports.
J'aime beaucoup sa remarque à la fin, hein, la transparence c'est la démocratie, et quand la transparence se fait sur les citoyens, c'est plutôt la dictature. Vraiment un bon point de vue, c'est quand même pas mal, quoi.
Libération, Android, que reproche Bruxelles à Google ? Un article d'Anaïs Chérif.
Donc on reparle d'Android, le système d'exploitation le plus utilisé dans le monde. 80% des téléphones portables l'utilisent, ce qui fait que bah, de fait c'est une masse. Il est édité par Google, donc son créateur, celui qu'il pousse chez les constructeurs, qu'il permet son installation dans les conditions dans lesquelles il est installé, avec les différentes applications propriétaires avec lesquelles il est en général installé. Et effectivement, bah, Bruxelles voit ça d'un mauvais œil, ça donne trop de pouvoir à Google, clairement, et Bruxelles dit que Google abuse de sa position dominante.
Comme Microsoft avait été accusé époque, hein. Il y a des années de ça par Bruxelles.
Et Microsoft avait dû payer.
Oui, enfin bon, en gros 2 milliards, je sais plus, sur 7 ans ou quelque chose comme ça.
C'est énorme quand même.
Ouais, si tu regardes la guerre des brevets, c'est de la rigolade. Et on sait que les décisions étaient tellement longues à venir qu'au final ça tombait toujours à plat et après la bataille. Bon, côté Google, les reproches finalement ressemblent un petit peu puisque c'est encore le fait d'imposer son navigateur, tous ses services, notamment en faisant des accords avec constructeurs de téléphones.
Oui, en gros, vous installez Android et vous installez telles applications Google Maps par exemple. Mmh. Alors, vous voulez installer Google Maps ? Ah ben alors dans ce cas-là, il faut vous signer tel accord avec nous et vous êtes obligé d'utiliser le moteur de recherche Google. Mmh. Et en faisant cela, eh bien, ils ont attiré les foudres de Bruxelles hein, parce que ces accords-là sont certes légaux quand il s'agit juste d'entreprises normales dans un marché normal, mais dans un marché avec un dominant, Google, eh bien non, ça ne passe pas.
Autre élément que j'ai trouvé intéressant et qui, pour le coup, fait la différence avec Microsoft à l'époque, c'est la mention de la difficulté à forquer, donc c'est-à-dire de faire des versions dérivées d'Android et qu'effectivement Google essaierait selon Bruxelles de bloquer ces possibilités-là.
Alors ils appellent ça l'antifragmentation, effectivement. Les vieux téléphones, les téléphones de différents constructeurs ne sont pas tout à fait pareils. Il y a un effort de Google là-dessus, mais bon.
Numérama, Richard Stallman, plus rien ne me fait rêver dans la technologie, un article de Guillaume Champeau. Donc Stallman était en France et il a fait une conférence comme souvent, et donc là, manifestement, il est totalement désenchanté.
Alors, effectivement, il parle de la technologie, il explique qu'il n'y a rien qui l'intéresse vraiment aujourd'hui, il est un petit peu déçu, clairement. Mais il n'est pas déçu, de mon point de vue, du point de vue technique, des choses de l'innovation, des inventions qui arrivent, non. Il est déçu, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des avancées, à chaque fois qu'il y a des choses nouvelles qui apparaissent, ce sont des choses qui sont pas juste détournées, mais qui sont utilisées et mises en avant par la plutocratie dans laquelle on vit, d'après lui.
Et donc, on retrouve les thèmes habituels de Richard Stallman. Vous pouvez aller lire l'article.
Carte de crédit, voilà. Téléphone portable, le fait qu'on est suivi, on est fliqué, carrément. Mais lui, il a une cible, hein. C'est les riches, hein. La plutocratie, c'est cela que ça désigne.
Donc là, le fait de parler de plutocratie, évidemment, lui, il le voit du côté essentiellement non pas de l'argent, mais du pouvoir, et de donc la restriction de liberté des autres personnes en face. L'atelier, l'invention n'est pas source de valeur, la transformation du produit, oui. Un article d'Anna Bochu.
Donc on parle des inventions d'une manière générale, des brevets aussi, de la création. Et là, clairement, alors c'est un dirigeant de la paillasse qui est à Paris. Et clairement, il s'oppose pour l'ouverture. Et le logiciel libre, c'est un des exemples de choses qu'on peut faire.
C'est très intéressant parce que la paillasse, donc, c'est une sorte de hackerspace, on va dire. Mais
très, orienté entreprise. Hein.
Très orienté entreprise. Et des contacts qu'on avait eu avec eux, ils étaient un petit peu écartelés avec certains qui étaient plutôt côté libre, d'autres plutôt côté business, il faut rentabiliser, il faut faire de l'argent. Mais des financements qui leur étaient proposés, notamment par des grosses boîtes, les grosses boîtes étaient plutôt à les pousser vers le libre. Mais avec des licences non copyleft, ou des choses comme ça qui permettent de faire un peu tout et n'importe quoi, notamment de refermer derrière. En tout cas, la personne qui est mentionnée dans l'article, donc qui s'appelle Hassan Laresh et qui est un scientifique, ou en tout cas ancien scientifique qui a fait carrière là-dedans, se prononce justement sur cette question du brevet. Il parle notamment de Tesla qui a ouvert ses brevets.
C'est une super comparaison. Voilà. Hein.
Et il donne quelques exemples pour montrer que ce n'est pas tant effectivement l'idée en elle-même, qu'aujourd'hui on a tendance toujours à avoir une culture du brevet, à essayer de se comparer au nombre de brevets déposés. Or, c'est pas ça qui fait la différence, c'est est-ce que derrière on arrive à produire, et ça c'est un métier à part entière, et puis on peut avoir tous les brevets du monde, si personne ne les achète et si personne ne les exploite, ben on a juste mis de l'argent en l'air.
En gros, hein, c'est bien d'avoir des idées, mais il faut surtout les mettre en avant, les mettre en place, construire par-dessus. Ça demande des efforts, et le libre, l'open source, l'ouverture des brevets, tout ça, ça aide, ça favorise, c'est un écosystème qui se met en place. J'apprécie qu'il ne met pas en avant les brevets, globalement, parce que les brevets, c'est facile à valoriser monétairement, mais c'est un blocage, c'est un mur, et c'est très embêtant quand même. pour l'invention.
C'est pas si facile à valoriser. Hein. C'est-à-dire que tu peux dire oui, regardez, j'ai investi, oui, je détiens un droit sûr, mais après, il faut que des gens te l'achètent.
Mais ça amène, d'après lui, plus facilement des investisseurs.
Oui, bah, ils sont rassurés parce qu'ils sont dans un monde qu'ils connaissent.
Ouais. C'est ça. Bon, bah, on va avancer hein, et puis on reparlera sûrement de tous ces sujets. Je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.